Bienvenue pour ce nouvel épisode des lundis de Ruralitique, qui s'inscrit dans la préparation de Ruralitique 2021, qui sera placée sous le signe de la jeunesse, Jeunesse Rurale Avenir Égal, et qui se tiendra les 24, 25 et 26 août à Aurillac, dans le Cantal. Aujourd'hui, nous accueillons Katharina Zougel, directrice de Décider Ensemble, et Hugues Renard, qui s'occupe de toutes les questions de démocratie participative, du grand projet de démocratie participative piloté par le département du Val-de-Marne. Je rappelle que le Val-de-Marne, malgré que ce soit en Île-de-France, il y a énormément de communes rurales qui ont donc un destin commun avec nous tous. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à Katharina Zougel.
Bonjour à tous et toutes. D'abord, un grand merci à Ruralitique de nous avoir associés à cet événement. Donc, comme Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, nous sommes une association, une think tank qui existe depuis 15 ans et notre mission, c'est de promouvoir la participation, la décision partagée. Et cela à travers la recherche, l'identification des bonnes pratiques et des rencontres. Et notamment, depuis 6 ans, on a les trophées de la participation et la concertation. C'est un événement qui permet, ou un concours qui permet de connaître les pratiques innovantes et innovateurs dans toute la France en matière de participation, soit organisée par les collectivités, les associations ou les entreprises. Et l'objectif, c'est de reconnaître ces pratiques, mais aussi les faire connaître. Et c'est dans ces cadres-là qu'on a fait connaissance avec Urénard et le département Val-de-Marne qui a candidaté et qui était lauréat des trophées de 2020, hein, 2020 pour leur labo citoyen du budget participatif. Et donc, il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi ce budget participatif, qui est en soi une pratique qui existe de plus en plus en France, est aussi innovateur et comment il en fait surtout et pourquoi d'associer les jeunes dans une démarche existante pour leur donner une place, pour rendre une démarche plus inclusive, plus diverse en matière de participants. Oui, sans tarder, je vais lui passer la parole pour nous expliquer. Déjà, dans quelques mots, parce que on n'est pas sûr si vous êtes tous connaissez très bien le fonctionnement d'un budget participatif, déjà, qu'est-ce que c'est, et aussi pourquoi le département s'est lancé dans cette démarche.
Merci beaucoup, Katharina. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, pour expliquer un petit peu le principe du laboratoire citoyen qui a impliqué les jeunes, c'est utile de revoir très rapidement ensemble les différents principes du budget participatif, les différentes étapes. Et ensuite, on pourra parler plus précisément du laboratoire citoyen qui couvre plus le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc très rapidement, un budget participatif, et j'imagine que pas mal d'entre vous ont quand même une petite idée du principe et de comment ça se déroule. L'idée d'un budget participatif, c'est une collectivité, ça peut être une commune, mais ça peut se faire à l'échelle d'une région, ça peut se faire à l'échelle d'un département, comme on l'a fait, même si c'est un peu plus rare. Ça peut aussi être une institution, il y a par exemple des bailleurs HLM qui organisent des budgets en interne. Il y a des universités qui le font aussi, ça peut se faire à différents niveaux. C'est une collectivité ou une institution qui réserve une partie de son enveloppe budgétaire. On définit une somme. Pour le département du Val-de-Marne, c'était 2,5 millions d'euros qui ont été mis de côté, qui étaient réservés pour ça. Et on décide qu'avec cette somme, on va réaliser des projets dans le champ de compétences de la collectivité. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que pour réaliser ces projets, ce ne sont pas les services ou l'exécutif de la collectivité qui va définir les projets qui vont être alimentés par cette enveloppe budgétaire. On va demander à la population, aux usagers, aux citoyens, aux citoyennes, d'imaginer des projets, de concevoir des projets pour utiliser cet argent à réaliser sur le territoire. Et ensuite, parmi tous ces projets qui auront été conçus, qui auront été imaginés par les citoyens, on va proposer à l'ensemble de la population de voter pour choisir les projets proposés qui vont être effectivement réalisés. Parce qu'en général, on a beaucoup plus de propositions que de projets qu'on peut réaliser. Donc ça, c'est le principe de base du budget participatif. Et concrètement, comment ça se déroule? Donc, je vais vous partager cet écran. Si vous voyez bien tous le petit schéma qui doit s'afficher ici normalement. OK, ça fonctionne. Donc, il y a trois grandes étapes du budget participatif. Comme je vous le disais, l'étape 1. Alors, il y a une étape 0, je ne vous le cache pas, puisqu'on est ici entre guillemets, entre professionnels, les services, les élus. Il y a quand même la première étape qui est la conception du budget participatif. On définit un budget, une thématique, une organisation. Prend beaucoup de temps, c'est une étape très importante. Ça, c'est un petit peu l'étape 0. Ensuite, par rapport à la population citoyenne, il y a l'étape 1, où les gens proposent des idées. Là, on reçoit tout. On propose une idée en disant, moi, j'aimerais qu'on propose qu'on réalise telle chose dans mon quartier, j'aimerais que sur telle politique, on aille dans tel sens. Toutes les propositions sont accueillies, sont reçues. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je reviendrai après entre les deux, c'est le vote. Parmi toutes les propositions qui ont été déposées, on va demander à l'ensemble de la population de voter pour les projets qui vont être réalisés. Et l'étape 3, là on revient au service et à la collectivité, on réalise les projets lauréats. Je vais très très vite et on peut aller dans le détail après si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces étapes. Mais il y a une étape très importante entre l'étape 1 et 2. Cette étape-là, c'est l'instruction des projets, elle est à peu près invisible pour la population qui va proposer des projets, qui va voter, mais elle est extrêmement importante. Et d'ailleurs, tous vos collègues qui ont peut-être eu l'occasion d'expérimenter un budget participatif dans leur commune, ou surtout mes collègues à moi dans les services, vous diront que c'est l'étape la plus lourde en termes de charge de travail, de temps, d'énergie et de difficultés à réaliser. Cette étape-là, c'est l'instruction. Dans toutes les propositions qu'on reçoit dans l'étape 1, il faut les trier parce que tout n'est pas recevable. On les trie de deux manières. D'abord, c'est est-ce que ça rentre dans le est-ce qu'elles sont recevables, c'est-à-dire est-ce qu'elles rentrent dans le règlement du budget participatif. Si, par exemple, on a des propositions qui ne rentrent pas du tout dans le champ de compétences de la collectivité qui organise, malheureusement, on ne peut pas la recevoir. Si on a une proposition qui est complètement à côté de la plaque ou qui propose des choses qui sont inacceptables, on ne peut pas tout soumettre au vote. On ne peut soumettre au vote que des propositions que la collectivité assume de réaliser si le projet est lauréat. Ça, c'est très important. Donc, il y a un filtre entre les idées proposées et les idées qui sont soumises au vote. Et c'est là qu'intervient pour le département du Val-de-Marne le laboratoire citoyen. L'une des critiques, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, l'une des remarques qui est très souvent faite à l'égard des budgets participatifs qui sont mis en place par différentes collectivités en France, c'est que cette instruction est parfois un petit peu la boîte noire du budget participatif. Pourquoi une boîte noire? Parce qu'on a des propositions qui sont faites par des citoyens, qui sont acceptées ou qui sont refusées par les services avant d'être soumises au vote, et on ne sait pas toujours sur quels critères. Et on peut soupçonner un certain manque de transparence. On dit on est dans une démarche de participation qui se veut ouverte, qui se veut transparente, où justement l'objectif c'est de recevoir des idées et des projets que la collectivité n'aurait pas eu par elle-même, voilà, de faire les choses différemment que ce qu'on a fait les années précédentes, que ce qu'on ferait nous-mêmes. Et est-ce que c'est ce moment d'instruction des projets, ce n'est pas l'occasion pour la collectivité, pour les services, de mettre des projets de côté? Parce que la proposition citoyenne est peut-être bonne, mais on n'a pas envie de la faire. Ça ne correspond pas à notre plan de travail de l'année, ou on a un petit souci avec la proposition, et discrètement, on ne va pas la soumettre au vote, et on ne sait pas pourquoi. On a souhaité éviter cet effet boîte noire au département du Val-de-Marne, et donc on a décidé de confier l'instruction des projets à un laboratoire citoyen composé de jeunes Val-de-Marnais, Val-de-Marnaises de 18 à 25 ans. Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans notre sujet. Comment ça se passe? Eh bien, on viendra après plus sur le labo, mais en gros, on a rassemblé à peu près 70 jeunes du Val-de-Marne qui a examiné toutes les propositions reçues par les citoyens et les citoyennes. Et ces jeunes vont travailler avec les services. Ce « avec les services » est très important, avec la collectivité, avec les élus, avec les services techniques et les experts, pour trier toutes les propositions, savoir si les propositions qui sont faites, elles sont acceptables et ne le sont pas, elles sont recevables au regard du règlement du budget participatif et ne le sont pas, et savoir si on va les soumettre au vote ou pas. Voilà un petit peu le principe du laboratoire citoyen.
Merci beaucoup. Et peut-être avant qu'on creuse un peu plus comment fonctionne le labo citoyen en détail, une des thématiques qui nous intéresse à la ruralité, que c'est aussi le lien avec le numérique et comment le numérique peut favoriser l'implication des jeunes. Et donc aujourd'hui, le numérique est très utilisé pour les démarches de budget participatif. Donc peut-être vous pouvez expliquer un peu plus quelle était la place du numérique pour ce projet, pour tous les citoyens, pour, au sein de l'administration et aussi pour les labos.
Oui, absolument. Alors, le numérique, il a eu sa place comme dans tous les projets de politique publique actuellement, au niveau de la communication, par exemple, au niveau de la diffusion sur les réseaux sociaux. Ça, je dois avouer que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence et donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. C'est les collègues de la communication qui utilisaient ça. Mais je le cite parce que ça me semble un élément numérique important. En ce qui nous concerne, vraiment pour le budget participatif, si on met de côté la communication, on avait un outil numérique qui a été central sur l'ensemble du projet, qui était une plateforme de participation en ligne. On avait en fait, si vous voulez, un site internet, une plateforme de participation qui a été conçue, qui est conçue spécifiquement pour ça et qui permettait de suivre l'ensemble des étapes du budget participatif. C'est-à-dire que sur cette plateforme de participation, vous retrouviez toutes les informations, le règlement, le pourquoi un budget participatif, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on attend de vous, quelles sont les règles, quels sont les projets recevables. Toutes ces données-là, elles étaient disponibles en ligne. Ensuite, cette plateforme, elle était très importante durant la première étape, la proposition des idées. Les citoyens et citoyennes pouvaient déposer leur idée, faire leur proposition directement en ligne. Donc, on se crée un compte assez, assez facilement, assez rapidement, et on a une petite boîte de dialogue et on propose son idée. Et cette idée, elle est directement consultable, elle est directement mise en ligne, sans filtre. Durant l'étape de vote, également, la plateforme est très importante. Les gens pouvaient voter directement sur la plateforme de participation en ligne pour leur projet préféré. Ensuite, durant la dernière étape, la réalisation des projets, la plateforme elle est toujours en ligne, elle est toujours accessible et ça permet de suivre pas à pas la réalisation des projets. On a évidemment affiché la liste des projets lauréats sur la plateforme de participation en ligne et aujourd'hui, tout le monde peut aller sur cette plateforme et voir, tiens, tel projet, il a été lauréat, les citoyens ont décidé que le département devait le réaliser, où ça en est? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est en cours? Quelle est la date de réalisation? Donc voilà, vraiment, cette plateforme, elle est utile durant toutes les étapes du projet. Et pour moi, ça a deux grands avantages. Je le fais rapidement. C'est que, comme je le disais, c'est un espace permanent. Un budget participatif, c'est un processus très long et c'est pour moi très riche d'avoir un endroit. Alors, c'est un endroit numérique, c'est un endroit fictif, on pourrait le dire. Mais c'est une adresse Internet qui reste toujours la même et sur laquelle, pendant un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans, sur la réalisation de certains projets les plus longs, on peut retrouver toutes les informations. Et ça apporte énormément de transparence. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui a vu que dans le parc à côté de chez lui, on était en train de réaliser une aire de jeu pour enfants, par exemple, et qui ne sait pas du tout d'où elle vient et qui voit que ça vient du budget participatif, s'il va sur la plateforme, eh bien, il peut voir que cette idée, ça a été proposée par telle et telle personne il y a maintenant plus d'un an. Ça a été soumis au vote, ça a recueilli autant de voix, le département l'a réalisé à telle époque. Et tout ce processus-là, on peut aujourd'hui le retrouver et le suivre. Donc ça, c'est un élément très important. Et puis le numérique également, il permet de toucher des personnes et un public qu'on n'a pas trop l'occasion de toucher par ailleurs. À une population qui n'est pas disponible pour participer à des réunions publiques, par exemple, une population qui a un petit peu moins de temps à certaines heures de la journée ou qui est particulièrement à l'aise avec l'expression écrite sur Internet, qui n'est pas la même expression que l'expression écrite par courrier, qui est pas, qui fait pas appel aux mêmes compétences que l'expression orale en réunion publique, par exemple, bien voilà, vous pouvez avoir un public qui est à l'aise avec ce type d'expression et qui va s'y retrouver. Et après, ça vous permet d'avoir un public en plus. Nous, notre logique, et je pense que c'est une logique qui est défendue par tous ceux qui promeuvent le numérique, là encore, je fais face à des personnes qui s'y connaissent plus que moi, donc ça serait intéressant d'avoir l'avis de Sébastien et Nicolas, par exemple, mais le numérique ne va pas remplacer tout ce qu'on pourrait faire de manière traditionnelle. C'est-à-dire que cette plateforme de participation en ligne, elle vient en plus de réunions publiques, elle vient en plus d'un contact avec les habitantes et les habitants, elle vient en plus d'un travail de terrain, on est allé Je parle beaucoup des parcs parce que notre budget participatif, je ne t'ai pas précisé, mais il concernait directement les parcs départementaux. On demandait de soumettre des projets à réaliser dans les parcs du département. C'était la thématique du budget participatif. Eh bien, on est allé dans les parcs, trouver directement les gens pour leur demander de proposer des projets, pour leur présenter le principe du budget participatif et pour leur proposer de voter quelques mois plus tard. Donc voilà, le numérique, il vient en plus de tout ce que l'on connaît et de tous les mois, des moyens de contact que l'on peut avoir de manière plus classique et traditionnelle.
Merci beaucoup. Et peut-être aussi, après, je vous laisse répondre à ça vous-même. Mais comme il y a souvent aussi un peu cette idée que le numérique, ça ramène les jeunes, ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est un peu plus compliqué, même s'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément sur les plateformes de participation citoyenne. Donc, vous avez décidé de les impliquer d'une autre manière entre la première et deuxième étape. Et pourquoi déjà les jeunes et pas une panel citoyen représentative de la population, et comment vous les avez choisis et comment ils ont travaillé sur cette instruction de projet.
Pourquoi les jeunes? Eh bien, effectivement, donc cette idée est très importante pour nous d'avoir un espace de participation au moment de l'instruction des projets, entre le dépôt de projet et le vote. Ça aurait pu, c'était pas obligatoirement des jeunes. Ce principe-là, il pourrait être intéressant, valable, avec un panel différent. Maintenant, le souhait de composer ce panel, ce conseil citoyen, uniquement avec des jeunes de 18 à 25 ans, c'était une initiative politique. Voilà, donc très clairement, c'est l'exécutif du conseil départemental du Val-de-Marne qui a souhaité impliquer directement cette population-là dans le budget participatif. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a il y a un souhait dans les politiques de participation citoyenne du Val-de-Marne d'aller chercher un public qui n'est pas, j'allais dire naturellement impliqué, ce n'est pas le bon terme, parce qu'il n'y a pas de naturellement, mais en tout cas, qui n'est pas le public que l'on retrouve de manière la plus classique, la plus habituelle dans les dispositifs de participation publique. Typiquement, vous le savez encore une fois mieux que moi, c'est rarement une population entre 18 et 25 ans que l'on va retrouver dans une réunion publique organisée dans une salle de la mairie entre 19 et 21 heures. Ce n'est pas forcément la population qu'on retrouve dans les conseils de quartier, par exemple. Donc voilà, il y avait ce souhait d'aller chercher cette population-là qui était plus éloignée des institutions et des politiques publiques en général. Et la deuxième raison, c'est que, donc je suis passé trop rapidement dessus tout à l'heure, donc la thématique du budget participatif du Val-de-Marne, c'était les parcs départementaux et le développement de l'écologie et du vivre ensemble dans les parcs départementaux.
Bonjour. Ma collègue,
Et
d'accord.
l'exécutif a souhaité, a pensé que ces deux sujets-là, le vivre ensemble dans l'espace public et le développement de l'écologie dans les espaces verts gérés par le conseil départemental, c'était deux thématiques qui concernaient directement une population plus jeune et dans lesquelles il avait cette population-là. Ça, c'est pour le pourquoi. Pourquoi les jeunes? Maintenant, le comment? Il y a deux éléments. Il y a la manière dont on a travaillé, comment a fonctionné le labo, et c'est comment on a composé le panel. Je vais commencer par comment on a composé le panel. Il y a plein de petits éléments techniques qui sont intéressants. Il y a un sujet que moi j'ai envie de souligner énormément parce que je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence et ce qui peut faire la différence dans ce type de dispositif. On a décidé de procéder à un tirage au sort. Pour composer un panel comme celui-là, il y a plein de manières différentes de faire. Vous pouvez faire un appel à volontariat. Vous pouvez dire, les inscriptions sont ouvertes, qui souhaite participer, inscrivez-vous. Vous pouvez faire appel à des listes, à des réseaux dont vous disposez dans vos collectivités. Par exemple, il peut y avoir des jeunes qui font déjà partie de conseils de quartier ou de conseils des jeunes dans le département du Val-de-Marne. On a un conseil des collégiens. Qui peut être intéressant, là c'est en dessous de 18 ans, mais enfin, il y a ce type de réseau, on peut faire appel à ce type de listing de réseau. Toutefois, nous, on a estimé que, encore une fois, tous ces réseaux, ils ne sont pas réellement représentatif de la population des jeunes d'un département comme les Val-de-Marne. Et là, j'utilise le mot représentatif avec précaution. Ce n'est pas représentatif au sens représentation, représentation politique. C'est représentatif dans le sens représentatif de la diversité de la population du Val-de-Marne. Des jeunes de 18 à 25 ans dans un département, ça veut tout dire et rien dire. Ce sont des personnes très différentes. Il y a des gens qui sont encore aux études, il y a des personnes qui travaillent, il y a des jeunes qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui sont des RSA, il y a des gens qui vivent chez leurs parents, il y a des jeunes qui sont totalement indépendants. Il y a des situations qui sont totalement différentes. Et c'était important pour nous que ce panel il puisse être aussi diversifié que ne l'est la population de 18 à 25 ans du Val-de-Marne. Et là, mathématiquement, statistiquement, les professionnels nous disent que il n'y a qu'une seule solution pour arriver à avoir cette diversité dans le panel, c'est un tirage au sort. Voilà, on tire au sort les jeunes et statistiquement, c'est la meilleure manière d'avoir un panel tout à fait diversifié. Et je dois dire que ça a fonctionné. C'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. La diversité du panel était vraiment très, très importante. Alors, c'est un tirage au sort, je le précise, qui est, comme tout tirage au sort, qui est corrigé par un système de quotas. Voilà, simplement, il y avait une. On a tiré au sort, mais on s'est arrangé pour qu'il y ait autant de personnes, de jeunes, issus des différentes communes du département, qu'il y ait une égalité femmes-hommes dans le panel, et qu'il y ait également un équilibre entre les jeunes qui. Entre les niveaux d'études et les jeunes qui soient en situation de travail, de salariat et ceux qui ne l'étaient pas. Enfin voilà, il y a quelques critères de quotas, comme ça on s'est fait aider par des professionnels qui permettent d'assurer quand même une certaine diversité. Et voilà, ce tirage au sort, il a permis un panel extrêmement diversifié, absolument passionnant. Là, on tombe dans de l'anecdote, hein, mais pour donner une idée, on avait des jeunes qui étaient... aux études supérieures qui étaient à la fac et qui se sont appuyés sur cette expérience pour nourrir leur mémoire de fin d'études, par exemple. On avait une jeune femme, une jeune militaire qui revenait de mission le matin même et qui arrivait à la réunion la première soirée en treillis avec son barda à l'épaule. On avait un membre du laboratoire citoyen qui ne parlait pas français, qui était accompagné par d'autres jeunes qui faisaient la traduction sur le côté. Donc voilà, il y avait vraiment une diversité de profils qui vraiment reflétait réellement la diversité de la population jeune du Val-de-Marne. C'était vraiment très, très intéressant. Voilà, ça c'est un petit peu le comment on a fait comment on l'a composé, comment on a travaillé. Je ne peux pas trop entrer dans les détails. Simplement, voilà, vous voyez sur la partie gauche ici de la petite slide, on a reçu presque 500 propositions à l'origine. Dans les propositions, il y avait parfois plein d'idées différentes. Donc, nous, on a été obligés de faire une pré-instruction. Donc, dans les 487, entre guillemets, fiches de propositions qu'on a reçues, il y avait presque 700 idées, 670 idées différentes qu'on a découpées, qu'on a déjà regardé avec les services techniques spécialisés, qui ont déjà rendu un premier avis en disant « ça, pour nous, c'est recevable, ça ne rentre pas, ça coûterait beaucoup trop cher, ça, c'est pas faisable, ça rentre tout à fait dans le principe ». Mais c'était un avis, ce n'était pas du tout un avis final ni décision. Et ces 668 fiches, elles ont été soumises au laboratoire citoyen. Et au labo, on lui a demandé de dire effectivement « cette idée-là, cette fiche-là, est-ce que vous souhaitez la soumettre au vote? Est-ce que pour vous, c'est compatible avec le règlement ?» Est-ce que ça rentre dans le cadre du budget participatif ou pas? Oui, non. Et au final, et surtout, oui, exercice très important, il y a eu une fusion des projets. Si on avait 2, 3, parfois 10 propositions qui concernaient la même idée, ça n'avait pas de sens de soumettre les 10 propositions différentes au vote. Et donc, il y a eu des fusions. Et ça aussi, c'était très important d'avoir cette transparence et cet avis citoyen sur les fusions pour ne pas qu'on donne l'impression qu'il y ait des propositions qui disparaissent entre les mains des services. C'est vraiment le labo qui a assumé ces fusions-là. Et donc, au final, on arrive à 122 projets à soumettre au vote et cette liste de 122 projets à soumettre au vote qui ont été validés par un vote de l'ensemble des membres du laboratoire citoyen. Je passe très, très vite sur la manière dont on a travaillé, mais je pense qu'on peut passer un peu plus de temps sur les questions si vous en avez.
Ou peut-être, oui, s'il y a des questions tout à l'heure, on peut discuter de comment vous avez travaillé. Vous avez mentionné déjà qu'il y a eu quelques impacts sur quelques jeunes qui ont participé, par exemple, ils ont utilisé ce travail pour leur mémoire. Mais est-ce que vous avez un peu une idée à quel point il y avait des jeunes qui ont participé, qui participaient d'habitude, si ça a un impact sur eux, sur ces groupes de jeunes, est-ce qu'ils restent en contact avec eux ou entre eux, mais aussi en termes de budget participatif, comment ça a changé vraiment votre travail? Est-ce que les projets qui sont sortis sont plus légitimes? C'est d'autres idées que peut-être la mairie aurait eues. Quelle est la vraie différence ou le vrai impact de ces dispositifs?
Il y a des questions auxquelles on ne sait pas encore répondre aujourd'hui. Par exemple, on est en train de finaliser un travail d'évaluation du budget participatif et vraiment, par exemple, savoir si les projets qui émergent de tout ce dispositif sont réellement différents des projets que l'on aurait initiés, entre guillemets, en interne, nous-mêmes, si ça n'était pas passé par ce budget participatif ou par le filtre du laboratoire citoyen. Aujourd'hui, c'est compliqué à dire. Dans les projets lauréats, il y en a certains qui étaient dans les cartons ou qui auraient pu être réalisés directement pour le département, et il y en a d'autres dont on n'avait pas eu l'idée ou qu'on n'aurait pas réalisé par nous-mêmes si on ne nous l'avait pas proposé. Donc ça, c'est une évaluation qui, à mon avis, devrait être faite dans 2-3 ans, avec un peu de recul. Ce qui est très intéressant, par contre, je peux regarder, oui, il y a différentes choses sur cette slide aussi, mais il y a quelques éléments qui y répondent. L'impact que ça a eu, il est d'abord et avant tout sur les services. C'est très étonnant à voir, mais en fait, ça a été un processus long, hein, le budget participatif. Quand on est allé trouver les collègues de la direction qui gère les espaces verts du département et qu'on leur dit bah, « écoutez, là, on a une enveloppe de 2,5 millions d'euros pour vous, c'est super, mais par contre, vous n'allez pas décider ce que vous allez faire avec, c'est d'autres personnes qui vont le décider avec vous », ça fait un petit peu peur au début. Et c'est tout un cheminement de progression et il y a finalement une confiance énorme qui s'est créée parce que les services d'espaces verts ont au final été très heureux de cette démarche. Et ce qui a vraiment participer à cette collaboration et cette satisfaction, c'est justement le travail du laboratoire citoyen. C'était un travail en présentiel durant 4 soirées sur 2 semaines. Et donc, on s'est retrouvés autour d'une même table avec des jeunes du laboratoire citoyen, des experts techniques, des collègues de l'administration, des services spécialistes des espaces verts, qui ont travaillé autour d'une table sur autour d'un même projet en disant « On a reçu cette proposition, vous pensez qu'elle n'est pas recevable, nous on trouve qu'elle est intéressante, comment on fait? Comment on peut discuter ensemble de ça? Comment on peut évoluer ?» Un exemple comme ça rapidement, il y avait quelqu'un qui avait proposé de mettre du Wi-Fi dans tous les parcs du département. Et la première pré-instruction des services, ça a été de dire ben « là, ça ne fait pas partie de notre politique. Les espaces verts, ce n'est pas fait pour aller sur Internet, ce n'est pas fait pour faire des ondes supplémentaires, donc ça, on va le mettre de côté. » Et le laboratoire citoyen, quand il a vu cette fiche-là, il a dit ben, « nous, on trouve ça intéressant. Nous, ça nous intéresse d'avoir Internet dans les parcs. » Et là, il y a une discussion qui s'est nouée, et il y a eu un vrai travail de collaboration entre les services techniques, les experts, les jeunes. Et finalement, la proposition qui a été soumise au vote, c'est que dans certains parcs, pas tous, il y a une borne Wi-Fi à l'accueil, qui permet aux gens de se connecter, mais pas sur toute la surface du parc. Il y a un endroit de connexion possible, mais pas partout. Donc voilà, ça a été une solution intermédiaire qui a été trouvée. C'est un exemple, c'est peut-être pas le meilleur, mais pour dire que ce qui a vraiment marché, c'est cette collaboration avec les services techniques et ce moment de dialogue, de partage, d'intelligence collective, qui a montré aux jeunes participants, membres du labo, que les services techniques sont là pour trouver des solutions, pour proposer des choses. Et à l'inverse, qui a montré au service que la participation citoyenne, ce n'est pas forcément des lobbies, ce n'est pas forcément, excusez le vocabulaire, mais la boîte à claques des gens qui vont venir se plaindre sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être du dialogue, de l'intelligence collective, du partage. Et là, ce système de labo, de jury citoyen, ça permet vraiment, vraiment ça. Et sinon, sur l'implication des jeunes, alors effectivement, on a vu qu'on avait des personnes dans la salle qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était un département, qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était une politique publique, la manière dont ça se construisait. Et eux ont énormément appris à ce niveau-là. Les retours qu'on a, ils sont vraiment très, très, très positifs. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qui pour eux change beaucoup de choses. Moi, je prends un petit peu de distance par rapport à ça, parce que c'est quand même un processus qui est compliqué, qui est long. Et donc, on ne peut pas dire, ils étaient 70 à avoir participé, on ne peut pas mettre toute cette ingénierie en place pour transformer le parcours de 70 personnes. C'est un petit peu trop lourd uniquement pour ça. Donc, ça ne suffirait pas comme résultat. Mais par contre, ce résultat-là est très, très, très probant. Pour les participants, c'était une expérience extrêmement riche qui leur a appris énormément de choses. Et aucun d'entre eux n'avait jamais mis les pieds à l'hôtel du département. Et très peu savaient ce qu'était un département. Il n'y en avait que deux, je pense, sur les 70 qui avaient même entendu parler du principe du budget participatif. Donc voilà, il y a eu énormément, énormément d'apprentissage à ce niveau-là.
Merci, merci Hugues. Katharina, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que j'ouvre la session des questions?
Non, je pense qu'on a adressé beaucoup de thématiques, qu'on peut en parler plus en détail aussi, cette question de à quel point c'est peut-être aussi le tirage au sort qui a amené à construire une citoyenneté auprès de certaines jeunes qui ne l'ont pas autant que peut-être d'autres. Mais donc, je vous laisse la parole, sinon, de notre côté, on a plusieurs idées de comment continuer ces discussions.
Ça marche. Je vais me faire l'écho de la question de Mamie Rabel du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes. En quoi la participation des jeunes dans ce processus participatif a fait évoluer le regard que les adultes, les élus ou les autres, ont sur les jeunes? D'ailleurs, effectivement, on n'a pas, pardon Hugues, mais dans votre témoignage, on n'entend pas beaucoup parler des élus. Racontez-nous.
C'est vrai, et c'est vrai qu'on a préparé un petit peu cette intervention avec vous et avec Katharina, avec Décider Ensemble. On s'est dit, ben justement, moi j'assume tout à fait, je suis facilement parlé au nom des services qui ont mis en place et l'avis des élus. Moi je peux vous parler des commandes et des retours que j'en ai, mais ce serait intéressant d'avoir leur propre témoignage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui fait vraiment une différence, c'est de le vivre sur place. C'est-à-dire que quand on élabore à l'origine l'idée d'un laboratoire citoyen, c'est difficile de se projeter vraiment sur la réalisation. Est-ce que vraiment ça va intéresser 70 jeunes de venir s'enfermer dans une salle de l'hôtel du département pendant 3-4 soirées pour travailler sur presque 700 fiches? En gros, on leur demande de faire notre boulot. C'est un petit peu ça. Et est-ce que ça va fonctionner? Comment on fait vivre un dialogue? Alors, il y a deux éléments. C'est premièrement, on montre que quand on est bien accompagné, quand on a des bonnes techniques, et ben, créer un dialogue en 70 personnes, c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas forcément une réunion publique où le micro passe de main en main. Il y a des techniques pour animer, des petites tables, pour créer de la discussion. Ça fonctionne. Et c'est honnêtement, c'est beau à voir en fait. Quand on le vit, c'est très inspirant, c'est très motivant. Donc ça, ce serait vrai avec toute la population. Et la deuxième chose, c'est avec les jeunes. Les élus, en général, plus que les services, ont confiance en cette population. Ils les connaissent sans doute mieux. Et donc, eux aussi, ils peuvent nous dire, non, mais vous savez, les jeunes de 18 à 25 ans, ça va pas être un problème. Ils vont être là, ils savent réagir, ça va marcher. Mais quand on est sur place aussi, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit que quand les conditions du dialogue sont mises en place, les personnes qui participent à ce type de démarche ne sont pas là pour défendre leur intérêt propre. On n'est pas du tout dans la caricature de dire, moi je suis jeune, j'ai envie, j'ai honte d'être aussi caricatural. Moi je suis jeune, j'ai envie d'un skatepark, j'ai envie de telle chose j'ai envie de telle chose dans le parc et je veux rien d'autre. On a des projets d'éoliennes, on a des projets de bancs, on a des projets d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On a des projets de jeux pour les enfants, on a des projets de mise à disposition d'eau potable. Enfin voilà, il y a toutes ces choses. On voit que dans ce type de démarche, les gens ne sont pas là pour défendre, ils ne sont pas là pour faire du lobbying, pour défendre leur idée. Ils sont là pour entendre ce qu'on leur a dit et pour apporter, voilà, pour le travailler, pour le filtrer et pour envoyer la balle derrière. C'est ça, c'est vraiment un jeu d'échange qui est vraiment intéressant et qui était ultra satisfaisant. Et ce qui a changé pour les élus, c'est qu'aujourd'hui, quand les projets qui sont réalisés dans le cadre du budget citoyen, les projets qui ont été élus, les projets lauréats, ils ont une légitimité beaucoup plus forte. Pourquoi est-ce que vous avez installé un espace de fitness à cet endroit-là dans le parc? Eh bien, écoutez, l'élu, il peut aller auprès de la population, des usagers, des usagères du parc, et dire, bah, écoutez, je vais vous expliquer comment on est arrivé en quelques mois à ce résultat-là. Voilà d'où ça vient. Et ce n'est pas la collectivité qui a une idée comme ça sur un coin de table de faire tel équipement sportif à tel endroit. Ça a été proposé par des usagers, ça a été réfléchi avec les jeunes, ça a été travaillé de telle manière. Et donc, ça apporte un poids et une légitimité qui sécurise tout le monde, en fait. C'est beaucoup plus facile pour les élus derrière d'aller défendre cette utilisation du budget, parce que mine de rien, c'est quand même 2,5 millions d'euros qui ont été utilisés, qui ont été dépensés. C'est important aussi de pouvoir expliquer d'où ça vient et comment ils ont été dépensés, selon quel process.
Alors, ça, il y a une autre question côté élu. Ces parcs qui sont sur des communes, quel est le taux de relation ou d'implication des élus communaux dans ces projets, le niveau de communication, d'information entre le département et eux?
C'est une difficulté importante pour un département qui veut mettre en place un budget participatif par rapport à une commune. C'est que, comme je le disais, un budget participatif, normalement, on doit recevoir des projets sur ses propres compétences. Et effectivement, quand une commune fait un budget participatif sur ses compétences, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus souple. Un département, c'est beaucoup plus contraint. Et donc, effectivement, nous, on a fait le choix au département du Val-de-Marne de ne faire que des projets sur du foncier départemental. C'était des parcs gérés par le département. Et donc, on avait une relation avec les communes de partenariat assez distant. C'est-à-dire qu'effectivement, elles étaient évidemment informées. On collaborait sur la communication. C'est important, c'est intéressant pour les communes d'avoir des projets qui se réalisent sur leur territoire, même si ce n'est pas sur leur foncier propre. Mais voilà, la collaboration, elle se limitait entre guillemets à ça. Mais c'est un cas particulier du Val-de-Marne. Là, je peux parler éventuellement pour des collègues d'autres départements, je pense au département du Gers, qui ont fonctionné différemment, qui ont été beaucoup plus ouverts sur les thématiques de leur budget participatif. Et eux, quand par exemple, ils avaient des propositions qui concernaient non pas les compétences départementales, mais les compétences ou les fonciers d'une commune que le département ne pouvait pas réaliser lui-même, eh bien, avant de soumettre l'idée au vote, ils ne la mettaient pas de côté, ils allaient trouver la commune et ils travaillaient avec les services et l'exécutif de la commune en question en disant est-ce qu'on marche ensemble? En gros, est-ce que si on l'a soumis au vote lors du budget, à l'occasion du budget participatif départemental, est-ce que si ce projet-là sur votre territoire est lauréat, est-ce qu'on le réalise ensemble? Là, voilà, c'est un autre type de collaboration beaucoup D'accord. plus poussée qu'on n'a pas eu l'ambition de mettre en place. Je suis très admiratif des collègues du Gers qui ont, du département et de l'exécutif du Gers qui a pu mettre ça en place. C'est pas le choix qu'on a fait, mais peut-être pour une seconde édition.
Ça marche. Je vois que Katharina signale effectivement le lien pour retrouver cette ressource dans le Gers, un autre modèle. Question de Paul Goisiou. Enfin, ça, c'est breton, ça, où je ne m'y connais pas, qui nous demande quelque part en quoi cette initiative du Labo des Jeunes, et ensuite on donnera la parole à Yannick Guillot, en quoi cette initiative du Labo, de ce Labo des Jeunes, quelque part, se distingue d'un conseil départemental des jeunes?
Pour moi, il y a deux grandes différences. Il y a une différence technique entre un jury citoyen, enfin c'est comme technique, une assemblée citoyenne qui est mise en place pour un temps donné avec une mission donnée. Notre laboratoire citoyen, il a été rassemblé pour quelques réunions de travail avec une mission, un mandat. Et une fois que ce mandat a été réalisé, quelques semaines plus tard, il s'éteint. Alors bien sûr, on continue à avoir des liens avec ces jeunes-là. Ils continuent à être impliqués dans le suivi des projets. Ils viennent voir si les projets qu'ils ont soumis au vote, comment ils sont réalisés. Il y a un contact qui se garde. Mais c'est très différent d'un conseil citoyen qui a une vocation un petit peu permanente. Et donc là, il y a un travail d'animation. Et je sais que, par exemple, dans ce type de conseil, l'une des grandes difficultés, c'est de travailler l'ordre du jour. Parce que cet ordre du jour, il doit être renouvelé régulièrement. Il faut conserver la motivation des personnes. Donc voilà, ce sont deux dispositifs de participation qui sont très intéressants, qui peuvent faire appel au même public, mais qui s'animent probablement de manière un petit peu… non, pas probablement, oui. Qui s'animent de manière très, très différente.
Donc d'un côté, on a une instance et de l'autre, on a quelque chose qui relève plus du groupe de travail, quoi.
C'est ça. Après, moi, je pense qu'une des grosses différences, c'est la manière de le composer. Et les deux expériences peuvent peut-être se rassembler un petit peu si vous composez votre assemblée permanente par tirage au sort. Et là, par exemple, c'est peut-être aussi un petit peu différent et ça peut s'en rapprocher.
Yannick, en
Oui,
Seine-et-Marne, juste à côté.
bonsoir à tout le monde, justement. Déjà, j'avais envie de dire merci parce que finalement, quand je vois que le Val-de-Marne a réussi à en mobiliser 70, moi l'autre fois sur 30 000, j'avais réussi à en mobiliser 16, je croyais que je me prenais un bide, mais finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. La question que je me pose maintenant, c'est vous, combien de personnes ça représente, vous, en tant qu'équipe, pour faire cette animation-là? Ah, je suis désolé, moi je suis très pratico-pratique. Et c'est vrai que, bon, après, ça laisse rêveur. C'est vrai qu'effectivement, si demain vous me filez 2 millions de budget, je pense que j'arriverai aussi à faire quelque chose. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, surtout, c'est, je dirais, la distance qu'il peut y avoir. Là, vous travaillez au niveau d'un département. Quand je vois la difficulté qu'on a déjà à faire en sorte que des jeunes s'approprient un territoire de proximité, soit investi, là par exemple je prends actuellement on est en train de faire notre plan climat air énergie, vous savez, donc on a fait des réunions publiques et alors autant on a réussi à mobiliser au niveau des industriels, des associatifs et tout ça, on a fait des réunions qui étaient correctes. Dès qu'on s'est attaqué finalement, on va dire en manière générale à la population, qu'elle soit jeune ou senior, mais c'est une désaffection totale, c'est-à-dire mais il y a genre mais effectivement, je veux dire, quand on faisait les visios, on était plus d'élus et de bureaux d'études qu'il y avait de gens à participer. Et la technique maintenant, c'est, ben moi, je suis preneur de leçons. Comment faites-vous pour avoir cette mobilisation, même en dehors du fait que ce soit du tirage au sort? Mais je veux dire, ça suppose aussi,
Ah, Yannick, on est en train de te perdre.
le tirage au sort qui est fait à 100% tirage au sort, il faut quand même que les gens se manifestent à un moment donné, de toute façon, à être dans le listing. Comment vous procédez? Ça m'intéresse.
Alors, j'ai aucune recette et encore moins de leçons parce que autant vous dire qu'effectivement, la composition, elle n'a pas été facile. Le tirage au sort, effectivement, était indispensable. Moi, je ne me sens pas capable, je suis honnête avec vous, je ne me sens pas capable de rassembler 70 jeunes sans cette tête du tirage au sort. Ce serait mission impossible. Il y a quand même un chiffre qui est passé rapidement sur votre slide tout à l'heure. En termes professionnels, en général, sur un tirage au sort comme celui-là, on considère qu'il faut booker, réserver le double de participants. Ça ne veut pas dire tirer au sort le double de participants. Ça veut dire que quand vous avez les participants potentiels au téléphone, si vous voulez 100 personnes sur place le soir même, en général, on compte qu'il faut 200 OK, je viens au téléphone. Il faut 200 personnes qui vous disent au téléphone, je suis d'accord, je serai là, pour en avoir 100 sur place. Et des personnes qui ont dit, OK, à telle heure, tel jour, je serai là. Donc nous, effectivement, on avait 178 confirmés et on n'en a eu que 68 présents. Donc même avec cette précaution du double, je vais être honnête avec vous, l'objectif c'était 94. Symboliquement, en fait, le panel, il aurait dû être composé de 94 jeunes, 94 jeunes de
Oui,
Val-de-Marne.
c'est vrai que dans les Yvelines, ils l'ont facile.
J'aurais préféré travailler dans l'Aude, en fait, mais effectivement, ça aurait
Hein.
été plus simple. Donc voilà, 68 sur 178 confirmés. Donc voilà, il y a une vraie difficulté. Et je pense que ça, c'est en partie dû à la tranche d'âge. Le taux de désistement était peut-être plus élevé sur cette tranche d'âge-là que sur la population générale. Mais j'en suis pas certain. Voilà, on manque de points de comparaison. Il faudrait faire ce travail-là. Effectivement.
C'est un dispositif pionnier, donc effectivement, moi je m'interrogeais, est-ce que le fait finalement de faire de la participation citoyenne, c'est forcément corrélé à un budget, c'est-à-dire à une capacité d'action? Parce qu'on peut faire de la participation, de la consultation, mais souvent ça s'épuise, alors que là, en même temps que vous mobilisez, vous donnez des moyens d'agir, est-ce que ça a contribué à plus d'implication? C'est difficile de comparer, puisque vous n'avez peut-être pas fait l'autre version, mais cette dimension, c'est notre argent, cet argent public, on va l'investir sur la base de nos propositions, de nos recommandations. Est-ce que c'était quelque chose qui vous a semblé important?
Et c'est vrai que je n'ai pas répondu à la première partie de la question de Yannick, où les 2,5 millions, autant vous dire qu'ils étaient réservés à la réalisation des projets lauréats, On n'a malheureusement pas eu 2,5 millions pour la logistique et l'organisation et le recrutement de collègues pour le labo. Donc, au niveau des moyens, on a presque tout fait en interne. Donc, on n'a pas mis énormément de moyens. On a mis beaucoup de temps parmi les collègues. On a eu pas mal d'aide d'autres services, mais on n'a pas eu tellement de moyens pour réaliser vraiment le laboratoire. Pour la question de Sébastien, je ne sais pas si pour faire de la participation citoyenne, ça doit être directement corrélé à un budget. Clairement, je pense que ça fait partie. Je ne suis pas un spécialiste, vous pouvez avoir d'autres personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux, mais je pense que ça fait partie du succès des budgets participatifs en France ces 2, 3, 4 dernières années. C'est que le fait que ça soit corrélé à un budget précis, ça permet de vraiment matérialiser l'effectivité de la participation. Voilà, il y a des propositions, il y a un vote, et ce vote, il prend racine directement en réalisation. Et donc là, je pense que ça explique aussi que le budget participatif soit l'un des nombreux modes de participation citoyenne qui recueille un certain succès. Mais par contre, ce n'est pas obligatoire. On peut faire de la participation citoyenne sans avoir cette enveloppe prédéfinie. Par contre, ce que moi je pense et ce que pas mal de chercheurs défendent, là, l'avis de Katerina pourrait être intéressant. Je pense entre autres à l'un des professeurs de sciences politiques qui travaille énormément sur démocratie participative, qui est Loïc Blondiaux, et l'un de ses leitmotifs de Loïc Blondiaux est de dire que toute démarche de participation citoyenne doit être liée à une décision. Alors, même si vous n'avez pas une enveloppe budgétaire qui est fixée dès le début, si vous mettez en place un dispositif de participation, il faut que vous puissiez dire dès le début, dès le moment où vous invitez les citoyens et les citoyennes à participer, voilà ce que ça va devenir. On vous invite à discuter parce qu'on doit construire telle chose, parce qu'on a telle politique publique à mettre en place et que ça va avoir un effet. Si c'est un sondage pour dire « alors, on aimerait bien savoir ce que vous pensez ou ce que vous souhaitez pour le quartier, et en fonction de vos réponses, on va voir si on va avoir une action ou pas, on ne sait pas trop », on est dans autre chose. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de mobiliser et c'est beaucoup plus efficient dans ce cas-là.
Oui, il faut donner du pouvoir. Katharina, quelle est l'analyse de Décider Ensemble sur ces aspects-là?
Oui, en fait, ça fait partie des bonnes pratiques de la participation. C'est surtout d'être très clair sur le pouvoir qui est donné. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un sondage pour avoir une idée des citoyens, mais il faut être très clair si c'est juste un sondage pour avoir des idées, mais après le pouvoir des décisions reste 100% auprès de l'administration. C'est quelque chose qu'il faut dire dès le début, mais c'est vrai qu'en citoyen, il est plus facilement mobilisable s'il a un pouvoir sur quelque chose que quand c'est juste une participation qui même peut avoir le risque d'être juste un acte de communication qui fait valider un projet préexistant. Donc, c'est vraiment de faire attention à ne pas vendre quelque chose comme participation qui est effectivement juste une communication. Et quand on demande la participation, leur donner la possibilité de participer à la construction, à la décision de quelque chose.
Oui, un sondage, ce n'est pas encore de la participation.
C'est plutôt récolter des idées, ou s'informer mieux de la vie citoyenne. Si c'est un sondage, après un sondage où on a un vote, ça devient autre chose. Mais oui.
Qui autour de la table, la parole est libre. Qui autour de la table souhaite témoigner, poser des questions à nos intervenants ou voilà, partager avec nous ce qu'il vit et c'est peut-être ses ambitions. René Cerisier de Montamisé nous dit la région Poitou-Charentes avait mis en place des budgets participatifs, on se souvient, c'était au temps d'une célèbre présidente. Il s'agissait de permettre aux lycéens de faire des propositions d'aménagement de leur environnement de vie quotidienne, surtout pour les élèves internes. René, pouvez-vous nous en dire plus et quelle est la question qui est au bout de votre témoignage? Comment ça s'est passé? Vous avez un petit peu le feedback de ça?
Oui, c'est surtout un témoignage, parce qu'en fait, il y avait quelques questions à l'époque. D'abord parce que c'était très, très novateur, que ni les adultes, ni les élus, ni les jeunes n'avaient pensé que cette pratique-là pouvait être possible, acceptable, réalisable. les difficultés à l'époque relevaient plutôt de la gestion des groupes et la définition des projets. En ce sens que on ne s'improvise pas participant à une telle démarche et que souvent élégamment les choses, les élèves, ça se déroulait le soir, hein, surtout avec les internes, c'était souvent ceux qui étaient les plus habitués à prendre la parole, voire le pouvoir, qui donnait à la réunion, voire au projet. La deuxième chose, mais on y a remédié, j'ai très bien entendu ce qui est dit par Hugues Renard, c'est ensuite qui décide vraiment de quoi et pourquoi à un moment donné, des projets sont retenus et d'autres ne le sont pas.
Ouais,
mais
c'est
garde un très bon souvenir. Hein.
C'est les deux points, effectivement. Qui pose question, oui. C'est déjà favoriser une participation. Peut-être que le numérique permet de donner un peu de place à tout le monde et pas que les leaders, ceux qui sont à l'aise sur la parole en public. Donc, c'est un complément qui peut être intéressant de ce point de vue-là. Mais ensuite, justifier de ce qui est choisi ou pas, c'est peut-être les moments les plus complexes.
Effectivement, Sébastien, moi, ça me fait penser à autre chose sur l'animation. Effectivement, là, il y a eu énormément, je pense, depuis 2005, et cette expérience qui était l'une des premières en France sur les budgets participatifs, surtout à cette échelle, il y a eu énormément de travail et d'évolution sur les techniques d'animation. Et c'est vrai qu'on n'anime pas des dépôts de projets pour un budget participatif avec des lycéens comme on anime une autre réunion ou comme on anime, je ne sais pas moi, la présentation d'un PLU, par exemple. C'est pas la même animation, et ça, je pense qu'il y a vraiment des professionnels qui se sont développés là-dessus actuellement, et même en interne, dans les services, il y a beaucoup de professionnalisation dans cette animation. Mais j'ai oublié une petite chose tout à l'heure quand même sur l'implication des jeunes qui me paraît intéressante, où là, je ne vous ai pas de calendrier, mais en fait, notre laboratoire citoyen, il a commencé à travailler début mars 2020. Début mars 2020, il s'est passé quelques petits détails dans notre pays, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on souhaitait réaliser. Et entre autres, l'un de nos projets, c'était également lors du vote et pour les dépôts de projets juste avant en décembre, on n'a pas pu tout faire. C'était aussi de beaucoup travailler avec les lycées, puisque les jeunes pouvaient déposer, tout le monde pouvait déposer des projets et voter à partir de 13 ans. Donc, on avait vraiment un objectif, nous, d'aller faire des ateliers dans les lycées pour aider les classes, les jeunes, à réaliser des projets. On a pu le faire dans quelques classes, mais pas dans toutes, voilà, malheureusement. Mais il y a un gros travail aussi, là, de collaboration à faire avec le système scolaire, avec les lycées, pour présenter des projets, présenter le budget participatif, concevoir des projets à soumettre au vote, et faire voter aussi dans les classes, rien que ça.
Oui, effectivement, le calendrier n'a pas joué en votre faveur, ce qui peut aussi participer à expliquer le taux de désistement que vous avez pu rencontrer. Yannick.
Oui, question. Dans les exemples qui ont été cités, il y a beaucoup d'exemples en fait, qui sont des équipements et des investissements. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu aussi des actions, en fait, des choix d'action ou sociales ou politiques au sens noble, hein, politique de bas étage, bien sûr, mais de politique de la ville et ce genre de choses, disons, pour aller en direction, ben, peut-être vers les jeunes ou partant des jeunes vers d'autres, justement, peut-être sur l'intergénérationnel ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui sont sortis ou on est simplement sur la Wi-Fi et le skatepark?
C'est une très, 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 très bonne question, puisque notre règlement, il y a plein de raisons à ça, notre règlement précisait spécifiquement que pour être recevable, les propositions devaient concerner du budget d'investissement et pas de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement n'étaient pas éligibles. Alors, ça fait partie, je vais le faire en deux temps, c'est cette règle du budget d'investissement, je ne vais pas inverser, fait partie, entre guillemets, des dogmes aujourd'hui de la plupart des budgets participatifs. C'est une règle qu'on retrouve dans presque tous les budgets participatifs, mais qui commence à être remise en question. On commence vraiment à se demander s'il faut s'y tenir ou s'il n'est pas possible d'organiser des budgets participatifs qui soient ouverts aux dépenses de fonctionnement. La première raison de réserver les budgets participatifs aux dépenses d'investissement, c'est justement ce lien aussi proche du dispositif avec le budget. Si vous êtes un exécutif qui, lors de l'année A, décide de consacrer 2 millions d'euros de son budget à un projet, si c'est de l'investissement, vous dépensez les 2 millions et demi. Et après, il y a un petit peu d'entretien, il y a un petit peu de fonctionnement. Nous, notre règle, c'était que le budget de fonctionnement derrière ne peut pas excéder les 5% du budget d'investissement. Voilà, c'était parmi les règles que l'on s'était données. À l'inverse, si c'est du budget de fonctionnement, l'année A, vous décidez que pour votre année B, l'année A plus 1, vous allez mettre 2 millions de budget là-dedans. Si c'est du budget de fonctionnement qui est reconductible, c'est compliqué pour vous de dire ben, l'année C, D, E, vous allez continuer à dépenser autant d'argent dans le fonctionnement. Donc, en fait, limiter ça au budget d'investissement, ça permet de cadrer la dépense et de ne pas s'engager dans des dépenses reconductibles les années suivantes. Voilà la raison principale, mais il y a sûrement moyen, et pas mal de gens sont en train de travailler là-dessus aujourd'hui, je pense, d'élargir cette vision et d'essayer d'élargir le système du budget participatif aux dépenses de fonctionnement.
Merci, oui, c'est éternel, y compris dans les collectivités, des ratios de souvent dans les budgets de 80% en investissement et 20% en fonctionnement. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du stade nautique. On met des millions sur la fabrication de l'équipement et après on n'a pas de quoi payer les maîtres nageurs. Résultat, elle est ouverte 8 heures par semaine. Bon, ça fait partie des complexités. Qui d'autre souhaite témoigner ou questionner? N'hésitez pas, la parole est libre. Sinon, j'y vais au hasard, hein, méfiez-vous.
Sinon, j'ai une autre question qu'on
Oui,
avait parlé,
Katharina?
qui est liée aussi à la question du budget. Et en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous allez donner une certaine partie du travail aux jeunes. Une des grandes questions qui se posent avec le tirage au sort, c'est la rémunération. Donc, est-ce que vous avez rémunéré ces jeunes ou payé leur déplacement et pourquoi, quel choix?
Là aussi, plein de. C'est un des gros, gros, gros sujets aujourd'hui. Je vais vous donner le point de vue, mon point de vue à moi, pas celui forcément de l'ensemble de la collectivité. Nous, au regard des expériences que l'on a pu observer en France, au regard de la littérature scientifique sur la participation citoyenne, moi je pense que la rétribution aide énormément à aider les gens à participer. La rétribution, ça veut dire que si une personne vient passer plusieurs heures à contribuer à l'élaboration d'une politique publique, on estime que ce n'est pas absurde qu'elle soit rétribuée pour cela. Alors, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas des sommes énormes, mais en tout cas, elle reçoit un dédommagement pour couvrir son indisponibilité, pour couvrir les frais de garde pour les enfants, les déplacements, les choses sur le côté qu'elle ne peut pas faire. Je pense que voilà, ça a une valeur, ça a à la fois une valeur incitative, où on pense qu'il y a plus de gens qui seront prêts à participer. Toutes les études montrent que ce n'est pas ça qui va faire la différence. Vous n'allez pas avoir des gens qui vont venir rien que pour ça. Ça ne va pas être un métier. Les gens ne vont pas être contents de venir participer parce qu'ils vont repartir avec 50 euros à la fin de la soirée. C'est trop petit comme rétribution pour que ça fonctionne comme ça. Par contre, ça peut lever certains freins. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, ça a une valeur symbolique très importante. Il faut se rendre compte que, par exemple, à notre laboratoire citoyen, toutes les personnes présentes étaient rémunérées d'une manière ou d'une autre, sauf les jeunes. Moi, je suis fonctionnaire, j'ai mon salaire j'ai mon traitement de fonctionnaire. Si un journaliste vient couvrir, un consultant qui vient nous aider dans l'animation, tout le monde est rémunéré, sauf les jeunes. Ce sont les seuls à ne pas l'être. Or, ils ont une contribution à la politique publique. Après, derrière, il reste une gêne à l'idée de rétribuer des personnes qui participeraient à ce type de démarche, car on se dit que la participation citoyenne doit être bénévole. Voilà. On doit le faire pour le bien public et non pas pour en retirer un intérêt pécunier. Voilà, voilà un petit peu les deux pôles qui se balancent. Nous, on a trouvé une solution intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de rétribution financière. Par contre, on a mis à disposition, en fait, on avait 3 ou 4 packs, entre guillemets, cadeaux. Et ils avaient le choix, les jeunes ont pu choisir l'une des solutions. Le département a la chance, par exemple, de gérer des centres de vacances qui sont ouverts aux jeunes du Val-de-Marne. Eh bien, les participants au laboratoire citoyen ont eu plusieurs jours gratuits. Par exemple, s'ils le souhaitaient, ils pouvaient passer plusieurs jours gratuitement. Voilà, on a aidé aussi, il y a eu une participation financière du département pour que les jeunes puissent suivre leur stage BAFA, par exemple. Donc voilà, il y avait plusieurs offres d'admission. À titre de comparaison, la Convention citoyenne pour le climat, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est, il n'y a rien à faire, l'un des modèles en termes d'ambition, d'animation, peut-être pas en termes de résultats, je ne me lancerai sûrement pas là-dedans, mais en tout cas en termes d'organisation d'un jury citoyen, là, si je ne fais pas d'erreur, les participants étaient rétribués au SMIC horaire, en plus des frais de déplacement. Et c'est un petit peu la référence pour moi, en tout cas, ou la norme vers laquelle ça peut être intéressant de tendre. Mais même juridiquement, ça pose plein de questions. Quel est le statut sur quelle ligne budgétaire? Comment on peut faire cette rétribution? Ce n'est pas facile du tout.
Merci, merci. Il est 18h30, on va se donner 2 petites minutes. Je vais donner la parole à Esther Dubois qui a levé la main, et puis après, elle va être surprise, mais je vais demander à Stéphanie de Dréguignan de nous dire comment elle regarde cette initiative, et si les jeunes qu'elle accompagne au quotidien, est-ce qu'elle les imagine s'impliquer dans ce genre de librement, hein, dans ce genre d'initiative. Esther Dubois d'abord, Stéphanie juste ensuite. Esther?
Vous m'entendez?
Oui, oui, oui.
Ah, voilà, parce que je suis en voiture. J'ai juste une question. Justement, souvent, les cas de projets participatifs peuvent être tout à fait exemplaires. Donc, comment passer de ces cas, souvent de proximité, à un changement d'échelle pour faire justement mobilisation et peut-être changement. Donc, est-ce que cette question est prise en compte dans cette dynamique participative?
Alors, changement d'échelle, là, pour le coup, on est déjà sur une grande échelle avec le département.
Oui, mais en passant à la région ou au plan national ou entre pays, enfin bon, comment on peut passer de la proximité à une dynamique de changement d'échelle, parce que ce projet-là est tout à fait exemplaire et peut être intéressant, en fait, à non pas à reproduire tel quel, mais à travailler aussi avec d'autres en partage. C'est juste la question. Hein. Voilà.
Il est possible qu'on la laisse en suspens parce qu'effectivement, des initiatives plus larges, à chaque fois, on a ce problème de décrocher par rapport à la visibilité de l'impact de ce qu'on va décider dans le participatif. Mais voilà, on la laisse en suspens, celle-là, on la prend. Et on termine donc avec Stéphanie. Voilà, un ressenti par rapport aux jeunes que vous accompagnez au quotidien à Draguignan. Est-ce que vous pensez que ça pourrait en faire kiffer certains, en amuser certains? Et voilà, est-ce que voilà, vous les imaginez avoir envie de ça?
Bonjour à tous. Alors moi, pour la petite info, je suis à l'info jeune de Draguignan que depuis quelques mois. Donc c'est tout nouveau pour moi. Je participe à la réunion parce que j'apprends. Hein.
Ouais, oui,
donc voilà, j'avoue que j'apprends pas mal. Je ne savais pas non plus ce qu'était tout ça. Donc je découvre en fait. Et est-ce que ça peut faire kiffer mes jeunes? Je ne sais pas encore et je l'espère car je cherche pas mal d'idées justement pour sortir du lot.
Ouais.
Parce que c'est pas évident, encore moins en temps de crise, de trouver des choses qui pourraient les intéresser. Donc voilà, c'est mon travail actuel, mon questionnement.
On est très heureux si on a pu effectivement alimenter votre réflexion de terrain.
Oui, merci.
Voilà, donnez-nous des nouvelles. C'est vrai qu'on se dit que pour certains, dans le Val-de-Marne, il y en a 78 que ça a motivé. C'est pas rien du tout. Le changement commence toujours par la petite échelle. Donc, super. Il est 18h33, on a dérapé comme des fous. Je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette session. Nous sommes montés à plus de 35 personnes, 37 personnes à un moment donné de pic. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci encore à Katharina Zugel et à Hugues Renard pour leurs témoignages et leurs apports. Vous retrouverez l'intégralité de cette vidéo plus les slides sur le site de Ruralitique dès jeudi. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai toujours. Chaque fois, je me dis, tu devrais mettre à l'écran le suivant, parce que je ne les connais pas par cœur, et à chaque fois, j'oublie. Donc, je vous demande 5 secondes, et puis je vous dis ce qui suit. Voilà, la semaine prochaine, on sera avec Juliette Jarry, qui est vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour parler du campus numérique région, c'est-à-dire qu'on sera là sur la question des opportunités des métiers du numérique pour les jeunes où qu'ils habitent. Voilà, merci à toutes et à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour les lundis de Ruralitique.